L'écho prend le micro.
L'écho prend le micro.
Le rendez-vous métier, emploi, insertion et formation sur Dynamo.
Cette émission est présentée à tour de rôle par
la maison familiale rurale,
emploi et compétences, en Brenne,
la chambre de métier et de l'artisanat,
le club des entrepreneurs
et Initiative Brenne. Vous êtes bien dans l'écho prend le micro
sur Dynamo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'écho prend le micro, animé aujourd'hui par le club des entrepreneurs de la Brenne. Alors avant de commencer l'émission, je voudrais passer un petit bonjour donc à Julie Morin qui a co-animé l'émission avec moi pendant quelques temps et qui, pour des raisons professionnelles, malheureusement ne pourra plus le faire. Donc un petit bonjour à Julie et puis on se retrouve au club des entrepreneurs. Donc pour rappel, cette émission hebdomadaire en direct le mardi de 12h à 13h et en rediffusion le samedi midi est co-animée par quatre structures, le Club des entrepreneurs de la Brenne, la CMA de l'Indre, Initiative Brenne et la MFR de la Brenne. On s'attache à vous faire découvrir le tissu économique du territoire, les acteurs de l'emploi, de la formation, de l'insertion et leur action, et à mettre en avant les offres d'emploi, d'apprentissage, les entreprises à reprendre, ainsi que de bonnes pratiques en lien avec la transition écologique, par exemple. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités. On a d'abord Agathe Van Doren, co-gérante de la ferme du Carroir, et Émilie Petit, agent général d'assurance chez Areas. Bonjour à toutes les deux et bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Alors, on va commencer ces présentations par Agathe, qui, petit aparté d'ailleurs, sera maintenant co-animatrice avec moi de l'émission pour remplacer Julie. Donc, bonjour Agathe. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, d'où tu viens, quelle a été ta formation, quelle est ton histoire?
Alors, moi, je viens d'Azay-le-Ferron. J'ai une formation, j'ai fait des études dans l'hôtellerie, des études de gestion dans l'hôtellerie, et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que chef de réception et puis dans deux régions différentes, en Dordogne et en Bretagne, région assez touristique.
Oui.
Et du coup, j'ai décidé au confinement de faire mon projet que j'avais toujours voulu faire quand je suis sortie de mon BTS, c'est-à-dire d'ouvrir des hébergements insolites pour que les gens puissent voir des choses différentes et dormir dans des endroits un peu, du coup, insolites.
D'accord. Et donc, au niveau de ta formation, tu as passé des diplômes pour...
Donc, j'ai fait un BTS de D'accord. gestion hôtelière. Et après, pour pouvoir m'installer, donc, du coup, sur la ferme familiale, D'accord. j'ai fait un BPREA à Châteauroux pendant un an.
D'accord.
Quand je suis revenue. Et maintenant, du coup, je suis chef d'exploitation agricole.
D'accord. Donc, en famille.
En famille. D'accord. Sur la ferme familiale.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entrepreneuse et de te lancer dans cette aventure? Donc, on rappelle, c'est la ferme du Carroir à Azay-le-Ferron.
Marre de un peu travailler pour les autres, ouais. Envie d'être à mon compte et puis envie d'accueillir les gens comme je le voulais, dans un endroit familial. Donc, et puis sur à la ferme avec des produits un peu inédits, quelque chose qui change de ce qu'on peut voir tous les jours. Et donc, au confinement, quand je suis revenue me confiner chez mes parents à la ferme, j'ai dit, c'est là que j'ai envie de mettre mon projet.
Oui, parce que c'est vrai que l'hôtellerie, la restauration, ça a été un secteur quand même qui a été très, très touché. Ouais. Il y avait beaucoup de secteurs touchés, hein, bien sûr, mais particulièrement l'hôtellerie, la restauration, impossible d'avoir d'activité.
Donc, complètement fermé pendant ouais. tout le mois du confinement. Donc, j'étais au chômage.
Ouais.
et du coup, après, quand la saison a relancé, moi, je suis repartie finir ma saison d'été. Okay. Et je suis revenue en octobre 2020 sur la ferme et...
D'accord.
Et j'ai développé.
Et c'est là qu'il y a eu cette décision.
La décision,
on change tout et...
voilà.
D'accord. Justement, est-ce que tu peux nous présenter la ferme du Carroir?
Alors, c'est une ferme que mes grands-parents ont achetée donc, il y a plus de 50 ans, en 72.
D'accord.
Ils ont développé donc, les fromages de chèvre qui étaient déjà présents, mais ils ont développé surtout un peu plus de forme. Et puis la vente directe. Et puis en 2000, ils ont pris leur retraite. Mon père a tout récupéré. Donc avec ma maman et nous cinq enfants, on est tous associés de la ferme. Non exploitants agricoles, mais on est associés de la ferme.
Okay.
Et il a développé du coup la viande de chèvre, la viande de chevreau et la viande de bœuf avec des plats cuisinés, de la viande fraîche. Et puis moi, en 2020, quand je suis revenue, j'ai développé les hébergements insolites avec la possibilité de dormir dans une tente, dans une yourte. Donc, malgré que les camping-cars sont accueillis à la ferme depuis 25 ans, ou les gens qui viennent avec leur propre tente. Mais du coup, on a développé pour que les gens qui n'ont pas de logement sur eux puissent dormir à la ferme, au milieu des animaux, goûter nos produits, parce qu'on propose petit déjeuner, restauration sur place, avec les produits de la ferme.
D'accord, ça, on va y revenir. Mais... Et donc, du coup, déjà avant, il y a des gens qui venaient pour dormir à la ferme.
D'accord. Ça fait 25 ans qu'on a un espace camping-car. Alors, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ils ont accès aux douches et aux toilettes. D'accord. Et en fait, l'emplacement est gratuit. En échange, ils doivent consommer sur place.
Okay.
Donc, les gens apprécient de se dire, au lieu de payer un emplacement, on va acheter à manger pour manger ce soir.
Oui, et puis ça permet de, quand on va dans une ferme comme ça, ça permet en plus de goûter ce que la ferme propose. Et
c'est ça, et puis ça a permis surtout de nous faire connaître et de faire connaître nos produits aussi. Donc, c'était très agréable.
Okay. Enfin,
c'est toujours agréable.
Donc, du coup, toi, t'es plus sur la partie hébergement.
Oui.
Tu travailles pas du tout dans la ferme, si tu aides.
Mon père fait plus la partie élevage.
D'accord.
Et tout ce qui est transformation, surtout viande. Et moi, je vais faire plus la partie transformation chaude, donc tout ce qui va être les plats cuisinés, les conserves.
Okay.
Et toute la partie touristique, ça, c'est moi qui l'a fait.
Ok, très bien. Donc, c'est un petit peu la question que j'allais te poser. Tu es co-gérante de la ferme, donc comment ça se répartit un petit peu le travail avec ton père? Vous êtes deux sur l'exploitation?
On est deux sur l'exploitation et un ou deux saisonniers l'été pour nous aider au niveau donc surtout du nettoyage des logements, de la restauration. Après, ça va dépendre des saisons. C'est sûr que l'été, je suis à fond sur le tourisme.
Ouais.
Alors que là, l'hiver, c'est beaucoup plus calme.
C'est un peu plus calme,
Dormir dans une tente en ce moment, c'est un petit peu plus risqué.
Faut être un peu motivé, quoi.
Voilà. Donc, du coup, c'est la partie où je fais un peu plus les conserves, la partie cuisine, transformation.
D'accord. OK. Qu'est-ce que vous faites comme produit, du coup? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que tu parles de restauration.
Alors, on fait en produit à vendre tous les jours, on va dire. On fait du fromage de chèvre, on fait des desserts au lait de chèvre. Après, on travaille de la viande fraîche, donc viande de chèvre, viande de chevreau, viande de bœuf. On propose aussi donc toute la viande qui n'est pas vendue en frais, elle est transformée en conserve. Donc, D'accord. On propose des plats cuisinés, des pâtés, des rillettes, du saucisson, des mousses à tartiner. Donc voilà, on a différents produits. Après, on a la partie restauration qui est ouverte tout l'été,
D'accord.
tous les soirs.
Elle est
ouverte d'avril à septembre, tous les vendredis et samedis soirs. Et l'été, c'est tous les soirs de la semaine.
D'accord.
Et donc là, vous retrouvez tous les produits qu'on propose. Donc, on propose une souris de chèvre, on propose une entrecôte de bœuf, une blanquette de chevreau, notre plateau de fromage, évidemment, et des desserts maison à base de lait de chèvre.
D'accord. Oui, donc c'est quand même assez varié.
C'est varié. On essaye de toujours proposer différentes choses, même des plats végétariens, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas manger de viande. Donc à base de fromage, au moins ils aiment le fromage de chèvre. Sinon, je suis un petit peu embêtée. Et voilà, on propose différentes choses pour que les gens puissent retrouver tout qui pourrait leur faire plaisir, et soit qu'ils ont envie de découvrir quelque chose, ou soit rester sur quelque chose de classique, comme
D'accord.
des lasagnes, des choses beaucoup plus classiques. Mais tout est fait avec nos produits. On achète juste les légumes et le pain.
D'accord. Et donc, vous faites que de la vente directe?
Que de la vente directe, soit à la ferme, soit sur des marchés.
Soit les marchés,
okay. Et soit sur un site internet.
Vous avez un site internet, ok.
C'est pas notre site internet, c'est un site qui s'appelle pourdebon.com. C'est une plateforme où il y a plus de 400 producteurs.
Okay.
Et le but, en fait, on a notre vitrine dessus et les gens peuvent acheter chez plusieurs producteurs ou un seul. Et quand ça part de chez nous, 24 heures après, c'est livré chez le client en chronofraîche.
D'accord. Ouais, donc ça, c'est pas mal.
Ça, c'est... Et dans toute la France.
Et vous livrez dans toute la France.
Voilà. Donc ça, c'est très bien.
Et vous avez beaucoup de... C'est un réseau qui fonctionne bien.
Oui. Ça, déjà pendant le confinement, ça nous a sauvés.
D'accord.
Et maintenant, il y a beaucoup de clients qui commandent dessus. On a énormément de clients habitués. Et puis tous ceux qui veulent trouver de la viande de chèvre, on n'est pas énormément en France à en faire. Donc,
oui, c'est vrai.
Du coup, ça permet d'en trouver.
D'accord. Quelles sont les valeurs que tu peux défendre dans ton activité aujourd'hui? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez, très local. Et puis... le système d'hébergement insolite comme ça, on est en plein dedans. Donc,
Je défends vraiment l'authenticité, l'accueil chaleureux, le circuit court, le fait maison. Et puis j'essaye de défendre aussi notre région, la Brenne, pour essayer aussi de la faire découvrir. Et vraiment le point principal qu'on fait à la ferme, c'est vraiment d'accueillir. D'être chaleureux, d'accueillir comme si c'était à la maison pour les gens et qu'ils trouvent quelque chose d'authentique avec des produits qui changent et de dormir dans un endroit où c'est le calme total. Et puis ils vont découvrir en même temps des produits qu'ils ne connaissent pas. forcément.
Ok, alors on va s'attarder un petit peu plus du coup sur la partie hébergement hein, qui te concerne un peu plus directement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Donc c'est des yourtes ?
Yourtes et tentes. Alors il y a 4 tentes. Dans chaque tente, c'est 2 lits simples. Donc c'est pour que 2 personnes. Les lits sont, ça fait comme à l'hôtel. Donc on arrive, les lits sont faits. Vous n'avez plus qu'à vous coucher. Le petit déjeuner est inclus dans le prix.
Ok.
Et les sanitaires, donc c'est des vrais sanitaires. Je ne voulais pas de toilettes sèches, parce que c'est moi qui nettoie. Et donc, on a mis des vrais sanitaires, mais les sanitaires sont en commun, au milieu donc, des logements.
Oui, un peu comme un camping.
Comme un camping, voilà. Okay. Et après, donc, y a des yourtes. Les yourtes, c'est entre 1 et 4 personnes, parce que c'est un grand lit et 2 lits simples. Donc, c'est pareil, c'est comme à l'hôtel, les lits sont faits. Et il y a une pompe à chaleur qui permet d'avoir la clim ou le chauffage.
D'accord.
Et toujours avec le petit déjeuner inclus.
Donc au final, on peut aussi dormir
On peut dormir. Hier soir, j'avais des clients qui ont dormi avec la pompe à chaleur. Ils n'ont pas eu froid, même très chaud.
Ouais. Donc ouvert toute l'année, du coup.
Alors les yourtes, elles sont ouvertes toute l'année. Après, la ferme, elle est complètement fermée sur les vacances de Noël.
Oui.
Donc voilà, boutique, tout ça, c'est fermé. On vient quand même parce qu'on vit avec du vivant, on travaille avec du vivant.
Oui.
Donc les animaux, on ne peut pas leur dire on part en vacances pendant 15 jours, vous vous débrouillez. Mais voilà, sinon on est ouvert toute l'année. Après l'hiver, voilà, c'est un peu plus spartiate parce que les sanitaires, c'est à l'extérieur.
Oui.
Donc la restauration, c'est la partie petit déjeuner, elle est donc à l'intérieur, c'est plus sur la terrasse à l'extérieur, c'est moins joli. Il n'y a pas de restauration l'hiver.
D'accord. Et en termes de restauration, combien vous pouvez accueillir de personnes ? Combien vous faites de couverts ?
En moyenne, on fait entre 20 et 30 couverts, ça va dépendre l'été. Et on peut accueillir jusqu'à 40-50 couverts.
D'accord. C'est mieux de réserver, j'imagine.
On demande toujours de réserver à l'avance. D'accord. Parce que c'est mon papa qui cuisine, c'est moi qui sers.
D'accord.
Et en fait, on n'a pas d'entrée, c'est plat directement. Donc, si vous arrivez et que vous me demandez une lasagne, vous allez attendre et vous allez vous regarder droit dans les yeux le temps que je la prépare.
D'accord.
Donc voilà, on demande toujours de réserver au moins le matin pour le soir, pour
D'accord.
pouvoir nous organiser en fait. On n'est pas comme un restaurant avec une mise en place.
Et au niveau de la réservation de tout ce qui est yourte, etc., parce que tu parlais tout à l'heure d'un site internet pour la commande alimentaire, mais là, est-ce que vous avez un site internet, j'imagine, pour...
Donc, j'ai mon site internet, www.fermeducaroir.fr, sur lequel on peut réserver directement en ligne, après, sinon, par téléphone, par mail. Et après, on est sur Booking, Expedia,
D'accord.
Airbnb,
Kingo, sur tous les sites,
parce que plus on est référencé, plus on va nous trouver.
Oui. Et en termes de clientèle, c'est plutôt familial, c'est...
C'est beaucoup familial.
Ouais.
J'ai énormément de familles. Après, j'ai tout âge avec des jeunes couples, des amis. Et après, on est au niveau de la clientèle, c'est toute la France.
D'accord.
Beaucoup de Bretons qui partent, la Bretagne, la Normandie, qui partent sur les Alpes en vacances.
Ah oui, donc ils font une halte ici.
Ils font une halte, inversement. Donc
ouais.
Tous ceux de Rhône-Alpes, la Loire, qui vont en Bretagne ou sur la côte, qui s'arrêtent.
Okay.
Tous les Parisiens qui descendent dans le sud-ouest. Tous ceux du sud-ouest qui remontent. Et après, en clientèle étrangère, alors beaucoup d'Anglais. Moins l'été, les Anglais, on les a plus au mois de septembre, octobre, novembre.
D'accord.
Et par contre, beaucoup de Belges, Allemands, Néerlandais, parce qu'ils descendent sur le Pays Basque et en fait, ils s'arrêtent ici, Pays Basque ou la côte atlantique, et ils font une halte ici.
C'est vrai que là, pour le coup, la
On
localisation
est
de la Brenne est top hein, par rapport à tout ce qui est grand déplacement comme ça. Ça permet, pour ceux qui font de l'hébergement ou de la restauration,
Et après, Beauval m'amène beaucoup de monde.
Ah ok.
Parce qu'on est qu'à 30-35 minutes de Beauval.
Ouais.
Donc Beauval m'apporte beaucoup de monde. La réserve naturelle de la Haute Touche nous amène beaucoup de monde aussi.
Ouais,
et évidemment,
êtes juste à côté, là.
Voilà, on est à 5 minutes.
Ouais.
Et la Brenne. La Brenne nous amène énormément de monde.
Ok.
Donc, les châteaux de la Loire un petit peu, le Futuroscope un petit peu, mais vraiment la Brenne nous amène beaucoup de monde, heureusement.
Oui, non, mais c'est bien parce que on dit souvent, enfin. Il n'y a pas grand-chose vers chez nous, mais en fait, bien sûr que si.
Les gens qui aiment la randonnée, la nature, les oiseaux, la faune, la flore, c'est une super belle région. Et on a beaucoup de clients, et j'en ai beaucoup de Belges ou Allemands qui viennent pendant 3 nuits en yourte et qui partent toute la journée se balader en Brenne.
Ouais, parce qu'en plus, ça change le fait d'avoir ce côté insolite. J'ai l'impression que les gens ont tendance à de plus en plus rechercher ça, et ça se développe de plus en plus. Il y a eu les cabanes dans les arbres, bien sûr.
Oui.
qui ont un peu explosé en France. Et ce genre de logement insolite, c'est plutôt pas
mal. Moi, les cabanes dans les arbres, vu la taille des arbres, je peux pas.
Ouais.
Ça va être compliqué.
On va falloir attendre quelques années.
on va attendre très longtemps. Je pense que je serai bien à la retraite. Non, mais après, voilà, je cherchais quelque chose d'insolite qui change. Je voulais pas forcément la roulotte parce que c'est plutôt classique dans les hébergements insolites.
Ouais.
Et la yourte, en fait, j'appréciais parce que c'est une société complètement française. C'est fabriqué à La Roche-sur-Yon.
Ok. Ouais,
et donc, c'est 100% français. C'est une super conception et c'est super joli.
Ouais. Ok, très bien. Donc, on parlait d'économie locale. Comment tu t'inscris avec ton entreprise dans l'économie locale, notamment avec les, j'imagine, d'autres producteurs. Tu parlais de circuits courts, donc comment ça fonctionne pour vous?
Déjà, on fait le marché à Argenton-sur-Creuse toutes les semaines. Et puis après, on travaille avec donc des producteurs locaux, la bière Luma, qui est à Saint-Cierge-Saint-Germain, avec du miel de la région. Et on travaille aussi avec des producteurs de toute la France. On a fait beaucoup de marchés, ce qui était sur Paris, des marchés de producteurs sur deux jours. Et en fait, on a rencontré d'autres producteurs de toute la France. Et donc, du coup, dans notre boutique, le but est de proposer donc, nos produits, d'autres produits, mais des produits de producteurs.
Oui.
On ne veut pas travailler avec, de l'industrie.
Oui, de l'industriel.
C'est intéressant.
Ouais.
Donc, on travaille avec des produits locaux. Et on essaye d'avoir quelques produits locaux. Après, il y en a beaucoup, c'est des producteurs de toute la France parce qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde et qu'on essaye de trouver des produits qui sont en relation avec les nôtres et qui ne vont pas dénaturer nos produits.
Ouais. Est-ce que vous faites, je pensais à ça, chaque année, je sais qu'ils organisent de ferme en ferme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez
déjà
fait?
Alors, on l'a fait pendant des années, de ferme en ferme. Après, on a arrêté parce que mon père partait sur les marchés à Paris.
Okay.
Donc, c'était souvent sur le même week-end.
Okay.
Et puis, maintenant, on a arrêté parce que, on ne trouvait plus l'intérêt de le faire. C'est beaucoup d'organisation.
Oui.
Et voilà, en fonction de notre travail, on n'arrivait pas à caler ça. Donc, pour le moment, on n'a pas repris.
D'accord. OK. Mais bon, vous l'avez fait.
On l'a fait pendant. On faisait de la restauration, on pouvait manger sur place, on faisait des visites, on avait un parc avec les chevaux.
Ouais, c'est de l'animation à trouver,
Il faut du monde.
Ouais.
Et puis il faut trouver tout pour que les gens qui viennent, il faut accueillir. Et on ne sait pas s'il va y avoir que 5 personnes ou 40 en une heure.
Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr.
Donc il faut avoir du personnel pour organiser ça.
Ouais, ok. Quels sont les principaux défis aujourd'hui que tu rencontres dans ton activité? Alors aussi, et ce sera une petite aparté, j'aime bien poser cette question parce que souvent on est des entrepreneurs autour de la table. Et quels ont été après donc les défis que tu as dans l'entreprise, tes défis et tes problèmes que tu as pu rencontrer en devenant entrepreneuse?
Alors les défis, trouver des saisonniers déjà pour faire la partie nettoyage, ça a été un de mes défis au tout début. Toute la partie administration, ça a été un énorme défi.
Alors souvent ça revient, ça.
Ça, la partie administration. Alors encore, j'avais mon père qui était quand même dans le milieu agricole, qui a été à la Chambre de l'agriculture pendant quelques années, à la FDSEA. Donc, il connaissait. Mais ça a beaucoup changé depuis. Les lois ont changé, tout a changé, l'administration. Et puis après, sur la partie touristique, moi, l'administration, je la connaissais. Mais pour m'installer, ça a été compliqué parce que on n'est pas une ferme comme tout le monde. Donc, on rentre pas dans les cases.
Oui.
Donc, cette partie-là a été très, très dure. Et puis, de me faire connaître au niveau du local, parce qu'on s'est développé sur du national. On nous connaît au national parce qu'on est parti sur Paris, on est parti en Belgique, à Lyon, à Calais, pour faire des marchés. Donc, on s'est fait connaître un petit peu partout en France. Avec les touristes qui passent, on se fait connaître, les camping-cars. Mais au niveau du local, il y en a encore plein qui ne savent pas que je fais du fromage de chèvre. Alors, c'est vrai que je ne travaille pas comme tout le monde en fromage de chèvre. Donc, je n'ai pas le Pouligny qui est en AOP. Moi, je travaille en croûte naturelle, donc on ne travaille pas du tout de la même façon.
Ouais.
Mais je n'arrive pas à me faire connaître au niveau de la restauration non plus. Ça fait quand même maintenant 4 ans que je fais de la restauration.
Avec la restauration locale.
Et pour le local, oui. Donc, les gens ne savent pas, ils me disent « Ah bon, on peut manger à la ferme ?» Oui, vous pouvez venir manger. Mais quand? Quand vous voulez.
Ouais.
Donc, c'est mon défi de me faire connaître au niveau du local.
Ok. Et du coup, est-ce que vous avez est-ce que tu as déjà pensé des axes de développement? Là, ça fait donc, tu dis, toi, ça fait 5 ans que tu es en place. Est-ce que tu as des idées, des projets, des...
Des projets avec mon père, on en a un à la minute.
Bon, bah, c'est pas mal.
On ne peut pas tous les réaliser. Après, il faut avoir des projets pour avancer dans la vie.
Ouais.
Pour le moment, non. Pour le moment, on continue comme ça.
Ouais.
On a des projets, mais pas sur du court terme. Ça sera du temps très long terme. Mais oui, on aimerait bien développer plus pour faire plus de l'événementiel à la ferme, des mariages, des repas. Mais voilà, pour le moment, on... Ouais.
Est-ce que vous avez les locaux pour ça?
Non. C'est
d'accord.
Pour ça que pour le moment,
pour
ça sera sur du long terme.
Ouais.
On a cette terrasse qui est couverte mais pas fermée.
Ouais.
Donc, c'est sûr que s'il pleut et que les gens veulent être à l'abri au chaud, je n'ai pas.
Ouais.
Pas pour un mariage.
Après, vous en avez déjà fait
On a fait un anniversaire de mariage qui était en extérieur. Donc, c'était super sympa. On avait fait la partie traiteur et anniversaire de mariage. Donc, ça... on avait privatisé tout le lieu, donc c'était super sympa.
Okay.
Et les gens pouvaient dormir en plus sur place, soit avec leur propre logement, soit dans les logements insolites. Et c'est vrai que ça plaît, de pouvoir manger sur place et de dormir sur place et pas avoir à conduire.
Et même, je pensais, les mariages qui sont assez proches, finalement, d'Azay ou dans la région, vous devez certainement être sollicité.
Tout ce qui est mariage, les anniversaires, les choses comme ça, oui, il y a des gens qui viennent dormir à la ferme pour ça.
D'accord. Est-ce que tu pourrais donner... des conseils, des messages à des gens qui souhaiteraient un petit peu se lancer, soit en tant qu'entrepreneur, peu importe, je dirais, le métier, ou dans ta branche précise?
Dans ma branche précise ou dans d'autres métiers, le conseil que je donnerais, c'est plutôt de regarder déjà ce qu'il y a sur le marché.
Ouais.
Et surtout de s'adapter en fonction de la région, de la demande de la population. Parce que on est déjà beaucoup, par exemple, en fromage de chèvre. Alors, il en faut toujours, hein, je ne dis pas le contraire. Mais faites attention où vous installez sur les marchés, parce que sur des petits marchés, en fonction de la population qu'il y a dans la ville, si vous êtes 7 à faire du fromage de chèvre sur le marché, il y a un moment donné, la part du marché, la part du gâteau, elle va être coupée en plus. Donc, vraiment de faire attention de ce qu'il y a déjà sur le marché quand on veut s'installer. Et après, de ne pas voir trop grand et surtout de bien se renseigner pour ne pas se lancer dans quelque chose et se dire dans 3 ans, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, j'arrête tout. Des personnes qui s'installent en agriculture, il y en a. J'en suis très contente et je suis la première à les aider. Mais au bout de 3 ans ou 4 ans, maintenant on n'a plus les aides, donc on ne va pas y arriver, donc on arrête tout. Bah oui, mais c'est facile, mais non. En fait, vous êtes lancé, vous avez commencé, il y a des clients qui vous ont suivi aussi, qui vous ont fait développer. Et de vous arrêter du jour au lendemain, ce n'est pas très sympa.
Ouais.
Donc voilà, ce serait plus mon conseil de faire attention et de ne pas aller trop vite et de bien se renseigner.
Respecter les étapes de développement d'une entreprise. Ok, en tout cas, merci Agathe
pour ta
présentation. On va juste quand même te redemander les coordonnées, comment on peut te contacter, les différents sites internet, le numéro de téléphone.
Alors, on peut me retrouver sur mon site internet, donc www.fermeducaroirtoutattaché.fr. On peut m'appeler sur mon numéro de téléphone 06 85 88 53 69 ou sinon on peut m'envoyer un mail à F comme ferme, caroire, donc CAROIRE, tout attaché, @gmail.com.
Eh bien merci Agathe et on va écouter le morceau que tu nous as choisi.
Merci. Comme je veux.
sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend. Libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends, oui, ce doux refrain comme une incantation? Et je dis,
L'écho prend le micro.
L'écho prend le micro.
Prend le micro.
L'écho prend le micro.
Alors maintenant, on va vous présenter donc Émilie Petit, qui a une agence générale d'assurance chez Areas. Bonjour Émilie.
Bonjour Agathe.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Émilie.
Donc peux-tu nous raconter un peu ton parcours, ta formation et pourquoi tu es devenue à travailler dans l'assurance?
Donc tout d'abord, ben, merci de m'avoir invitée au micro. C'est une première pour moi, donc merci
super,
pour cette initiative. J'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout.
Mais oui.
Donc moi, je m'appelle Émilie Petit. Donc en fait, je me suis lancée il y a 11 ans dans une reprise d'un cabinet d'assurance. Au départ, j'étais pas du tout partie dans ce projet-là. Je suis d'origine plutôt agricole, avec une formation commerciale et une formation agricole, parce que j'étais plutôt dans une orientation de m'installer et de reprendre la ferme familiale à l'époque, sur Saulnay. Et puis, j'ai eu l'opportunité, suite à mes études, de faire quelques expériences en para-agricole, en coopérative agricole, et j'ai eu l'opportunité de rentrer au sein de la grosse maison Crédit Agricole, si je peux me permettre de la citer.
Oui.
Qui a été vraiment un tremplin pour moi, qui m'a permis vraiment d'apprendre ce que c'était que le métier de banquier, de ce que c'était que la relation client, et de savoir ce que c'était que de travailler avec les gens et de s'intéresser aux gens. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans en circuit bancaire, et au bout de 15 ans, j'arrivais à un stade où j'avais peut-être besoin de voir autre chose, de me lancer, comme on parlait tout à l'heure, de défis. Et j'avais cette idée peut-être dans la tête un jour de m'installer, mais je ne savais pas trop comment, ni où, comment, pourquoi. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer un agent d'assurance qui m'a présenté son métier et qui allait prendre la retraite. Et quelques temps après, je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas moi? Comme j'avais déjà eu quelques notions à l'époque dans mon parcours bancaire, de travailler dans le milieu de l'assurance. Et je me suis dit, allez hop, on y va, on tente. Et l'aventure est partie, voilà, en 2015, où j'ai pris l'initiative de m'installer à mon compte.
Mais entre les études en banque plutôt que tu as fait en assurance, tu as fait d'autres formations pour être assureur ou...
Du tout. Il faut savoir qu'on a quand même une obligation de formation minimum légale de 4 mois de formation qui nous sont dédiés par la compagnie, de façon vraiment à bien avoir toutes les bases et savoir de quoi on parle et pouvoir avoir la connaissance du code de l'assurance, parce que c'est quand même notre livre de chevet aujourd'hui, de maîtriser au mieux les conditions liées justement à l'assurance.
Après, c'est vrai que le métier de banquier, de toute façon, aujourd'hui, n'importe quelle banque propose des services d'assurance. Donc, c'est vrai que si tu as travaillé pendant 15 ans dans la banque, tu devais déjà bien connaître le produit.
C'est vrai qu'ils ont créé l'école avec quand même cette force de nous communiquer, de nous apprendre ces bases de produits, que ça soit lié à tout ce qui est l'assurance automobile, l'assurance habitation, les mutuelles, la prévoyance. Donc c'est vrai que j'avais déjà un bagage qui était déjà acquis et qui s'est renforcé suite à ça, suite à ces formations dédiées après avec le groupe Areas, et qui m'a permis justement d'ouvrir encore un peu plus mon escarpette et dans les différents produits pour l'assurantiel.
D'accord. Donc, du coup, tu nous as dit que tu avais repris il y a 13 ans ?
11 ans.
11 ans, pardon.
1er janvier 2015.
Ah ! Donc, il y a 11 ans. Et du coup, tu as combien d'agences ?
Donc aujourd'hui, j'ai deux agences. J'ai une, l'agence principale qui est sur la commune d'Azay-le-Ferron, que j'ai repris donc en 2015. Et deux ans après, j'ai un collègue qui a pris la retraite et qui m'a proposé de reprendre son autre agence, donc sur la commune de Tournon-Saint-Martin. Donc aujourd'hui, j'ai deux points de vente qui sont à une quinzaine de kilomètres l'une de l'autre.
Et est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité d'agent général d'assurance ? En quoi ça consiste exactement ton métier à peu près ?
Alors c'est un métier qui est hyper vaste en fait. Je pense que la base du métier, c'est avant le, c'est le fait de, d'aimer les gens. Parce qu'en fait, si on ne s'intéresse pas aux gens, c'est un métier qui est totalement... qui apporte aucun enrichissement personnel. Donc je pense que déjà le fait de pouvoir voir les gens, de discuter avec eux, de s'intéresser à eux, de comprendre qui ils sont, ça nous permet derrière d'aboutir vraiment à des propositions d'assurance qui vont vraiment être adaptées, ciblées par rapport à leurs besoins. Donc je pense que ça, c'est la première chose du métier. L'assurance nous permet derrière de traiter énormément de points, que ça soit, donc on en parlait, de produits liés aux particuliers, l'assurance auto, l'assurance habitation, la complémentaire santé, les prévoyances, les indemnités journalières. Derrière, on peut dérouler sur, évidemment, le professionnel, l'agriculture, qui est un secteur que j'affectionne assez particulièrement. J'imagine. Mais ça, on avait compris. Et ensuite, on intervient également sur toute la partie des produits liés plutôt à la transmission, donc l'assurance vie, l'épargne retraite. Et on peut intervenir également sur les produits de défiscalisation. Donc, dans un contexte économique, aujourd'hui, on parle de réduction, augmentation d'impôts. Il y a des solutions voilà, auprès des assureurs aujourd'hui pour limiter ces augmentations d'impôts sur le revenu.
Et tu arrives à gérer avec les deux agences ?
C'est un sport au quotidien.
J'imagine.
C'est pas toujours facile parce que on est resté un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que le groupe Areas a fait un choix. Alors si je peux me permettre juste une petite anecdote, Areas en fait c'est une fusion de mutuelles qui a eu lieu en 2005, qui est intervenue avec les mutuelles du Poitou et le groupe CMA et les mutuelles de province de France. Donc ça donnait ce groupe en 2005 et Areas a eu cette vocation de rester une petite mutuelle. Alors petite est un peu parfois un peu péjoratif parce que on a une taille aujourd'hui en termes d'activité aussi importante que Mutuelle de Poitiers et Télém Assurance. Mais on est resté sur cette base de proximité avec une échelle valeur humaine. Et on n'a pas de plateforme téléphonique, ce qui aujourd'hui est assez rare parce que la majorité des assureurs passent via des plateformes quand vous avez des sinistres ou que vous avez besoin de faire un nouveau contrat. Nous, aujourd'hui, tout se fait encore en interne, c'est-à-dire que quand vous avez besoin, vous appelez, vous aurez toujours la même personne au bout du téléphone. Ça nécessite une certaine organisation et je pense que la réussite ne peut passer que par les collaborateurs sur ce genre d'opération-là. Parce que si j'ai personne dans mes boutiques, si j'ai personne pour répondre au téléphone, bah évidemment, le service client ne sera pas là. Donc, j'attire vraiment le fait que la réussite passe aussi avant tout par avoir des collaborateurs en agence, des gens qui sont formés, qualifiés, évidemment, et investis dans l'entreprise.
Oui, l'écoute, c'est important. Donc, en effet, tu fais bien de le souligner. Et combien vous êtes tu travailles combien de personnes sur les deux agences ?
Alors aujourd'hui, j'ai une personne en temps fixe sur l'agence de Tournon-Saint-Martin.
D'accord.
J'ai une collaboratrice également à temps fixe, à temps plein, sur la commune d'Azay-le-Ferron. J'ai fait le choix de parier sur l'avenir. Donc ça fait plusieurs années que je prends des alternants auprès de la Chambre des métiers ou la Chambre du commerce pour les former sur des BTS, NRC, relations clients et autres. Donc ça fait aujourd'hui 4 ans que j'ai des alternants régulièrement au sein de l'agence.
D'accord.
Qui font partie des effectifs à temps plein parce qu'on les manage comme des salariés.
Hein,
aujourd'hui, il faut les mettre réellement en situation de travail aujourd'hui pour leur montrer la réalité, comme on disait tout à l'heure, la réalité du milieu. Et j'ai une autre collaboratrice qui vient d'intégrer l'agence il y a une petite semaine. Donc l'idéal, c'est d'être 4, voire 5, si possible, à court terme.
Et toi, tu jongles entre les deux ?
Et moi, je jongle entre les deux. Donc, je suis souvent dans ma voiture. Les clients, chaque fois quand ils m'appellent, ils me disent « Bon, Émilie, je suppose que tu es encore dans ta voiture. » Donc, voilà.
Donc du coup, tu nous as dit que tu t'adressais à des particuliers, à des professionnels, à des entreprises, mais est-ce que c'est plus des particuliers, plus des professionnels ?
Alors quand j'ai repris le portefeuille, à l'époque, on était sur une répartition 80-20, donc 80% de particuliers, 20% d'entreprises. Avec une moyenne d'âge qui était aussi assez importante, puisque là, j'avais quasiment 60% du portefeuille qui avait plus de 60 ans.
Ah oui.
Qui était lié en fait à l'historique du portefeuille, parce que ben, j'avais mon cédant qui avait 60 ans, et donc il avait une portefeuille et des relations qui étaient similaires à son âge et qui l'ont suivi depuis plusieurs années. Donc depuis 11 ans, le portefeuille a rajeuni, on évolue de plus en plus sur le marché du professionnel et de l'agriculture, ce qui nous permet aujourd'hui de descendre un petit peu la tendance et de revenir sur des bases plutôt à 60-40, hein. 60% D'accord. sur du particulier, 40% sur du professionnel.
Et du coup, donc, tu nous as dit que ce qui différenciait entre bah, vous, l'agence locale, et les grandes compagnies, c'était qu'on peut être en direct avec vous pas avec avec une boîte vocale ou un autre intervenant. Et est-ce qu'il y a autre chose qui vous différencie ?
On travaille avec les gens qui vivent sur le territoire. J'habite sur le territoire, donc par nature, on vit avec les gens. Donc, il y a une facilité d'accès aujourd'hui, je pense, parce qu'on se connaît, on se côtoie au quotidien. Donc, c'est beaucoup plus facile d'échanger sur des problématiques assurantielles quand on se connaît. Donc, je pense que ça fait partie de la relation directe avec les gens qui est important. Et on essaye de s'adapter vraiment aux besoins et aux plus proches. Enfin, voilà, c'est vraiment cette notion-là que je pense qui est importante par rapport à d'autres. Et j'ai tendance à dire qu'on s'engage également dans une longévité de relation. Je suis là depuis 11 ans, j'ai des clients qui sont là, je crois que le plus vieux contrat que j'ai, il est de 1937.
Ah oui, quand même.
Il y a une association, je peux la citer, hein, qui est sur la commune d'Arfeuil, qui historiquement a toujours suivi Areas Assurance. Et je pense que notre objectif aujourd'hui, c'est justement d'avoir ces relations à long terme. Parce que faire du one shot, entre guillemets, personne n'y gagne. Donc je pense qu'on y gagne justement en gardant ce lien et ces relations et cette facilité d'accès, de se dire bah voilà, on peut avoir Emilie au téléphone, pas 24/24 mais quasiment 7 jours sur 7 également,
quasiment.
Pour ceux qui ont déjà testé, donc je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui la différence par rapport à d'autres. Un samedi après-midi, vous achetez une voiture, bah, votre banquier il est fermé, et là vous faites comment pour assurer la voiture? Bah, chez Areas, on a toujours la solution.
Émilie est toujours disponible.
Émilie est disponible.
Bon, et du coup, c'est quoi les défis, les évolutions que tu décides de mettre en place dans les futurs jours ou années ?
Alors, les défis, je pense que ça passe avant tout par le salariat. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, l'embauche de salariés est compliquée.
Oui.
On n'a pas des gens aujourd'hui formés au métier d'assureur. Hein. Donc, à part si on a suivi un petit peu des parcours bancaires qui ont cette possibilité-là, on a quand même la Chambre des métiers à Châteauroux qui fait ses formations de banque assurance. Mais le problème, c'est qu'on est à Azé et à Tournon-Saint-Martin. Donc, quand on a des jeunes de Châteauroux et on leur dit « Venez bosser à Azé ou à Tournon », c'est pas hyper toujours attrayant. Donc, c'est pas facile de trouver du monde. Mais je pense qu'on a des compétences malgré tout sur le territoire et je pense qu'il faut savoir les accompagner et je pense qu'il faut accéder à la transition, peut-être au changement, et on peut avoir des gens qui ne sont pas du tout issus du milieu et qui, dans le cadre d'une reconversion, vont accéder, et il ne faut pas hésiter à pousser la porte justement et se dire voilà, tout le monde est capable demain de proposer des contrats d'assurance. Il faut du temps. Il faut de la formation, il y a de l'accompagnement, mais je pense que dans le cadre de reconversion professionnelle, il y a des possibilités. Mais la valeur humaine est vraiment importante au sein de nos petites structures. Donc les défis pour nous et pour répondre à la satisfaction client, je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur les salariés aujourd'hui. Ça fera partie, je pense, de nos défis de demain, surtout avec la nouvelle génération. Et sinon, de continuer à persévérer et à être au plus proche des clients et de pas en oublier au passage.
Quel regard tu portes, parce que le métier d'assureur, c'est un très vieux métier quand même. Quel regard tu portes sur l'évolution que peut avoir ce métier? Et est-ce qu'il y a des évolutions? Et moi, j'ai souvent, enfin, on entend souvent parler des catastrophes climatiques qu'on a, qui ont des incidences sur les assurances, des choses comme ça. Comment tu vois, toi, un petit peu le métier aujourd'hui ?
Le métier est très changeant et il ne faut pas perdre de vue qu'on est quand même soumis à énormément de réglementations, comme on disait également tout à l'heure. La CPR aujourd'hui, l'État, qui par les taxes ne nous aide pas non plus sur les augmentations de tarifs. La réglementation fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas vendre n'importe comment, on ne peut pas proposer n'importe quoi. Notre responsabilité est de plus en plus engagée si demain nous sommes en défaut de conseil. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont... à prendre en considération, faut vraiment être conscient à chaque fois qu'on fait une proposition de se dire voilà, est-ce que j'ai apporté le bon conseil, parce que demain on peut malheureusement être mis en cause si on a un défaut d'information. Et sur la partie réglementaire liée justement aux catastrophes naturelles, je pense que c'est le défi de demain. On va de plus en plus, de toute façon, vers des climatiques qui vont évoluer.
Ouais, tout à fait.
Des tempêtes, des sécheresses, des averses de grêle, comme on a pu connaître en 2022, nous, sur le secteur du blanc.
Ouais.
Donc, je pense qu'il y a une préparation psychologique à avoir là-dessus. Je pense que nos futures maisons, il va falloir qu'elles prennent en considération ces événements climatiques. Peut-être demain, ne plus mettre d'ardoise sur nos tuiles, parce que nos maisons, parce que justement... Ouais. Le coût sera énorme en cas de réparation. Et il faut se dire qu'on reste dans une mutualisation. Donc demain, c'est l'ensemble des particuliers et professionnels qui vont payer via la mutualisation. Donc c'est un défi majeur. Je pense que là-dessus, les assureurs sont de plus en plus fragilisés sur ce risque climatique. On commence à voir certaines compagnies qui se disent à se retirer du marché.
D'accord.
À ce point-là ?
À ce point-là. On a certains assureurs qui se retirent de certaines zones géographiques parce que le coût est trop important.
Trop important.
Et ils ne veulent pas aujourd'hui engager toute une filière, entre guillemets, ou toute une branche dans leur entreprise pour faire face. Donc, il y aura vraiment des choix stratégiques à faire demain. Et
tu parlais justement de... Est-ce que vous avez des liens, alors peut-être pas à ton échelle, mais est-ce que en termes de construction de bâtiments, je prends un exemple tout bête, mais le Japon, ils ont su énormément s'adapter par rapport à tout ce qui était tremblement de terre au niveau de leur construction. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de dégâts. Donc tu parlais en effet, par exemple, des ardoises, les maisons qui se fissurent. Est-ce qu'il y a un lien vraiment concret entre les assurances et les gens qui gèrent un petit peu les assurances et les constructeurs dans le bâtiment, etc.
Je ne sais pas si on en est encore à ce stade-là.
Ouais.
Sincèrement, après, il y a beaucoup de bon sens, en fait.
Bien sûr.
Mais on a la problématique du territoire avec justement les bâtiments de France. Aujourd'hui, on ne fait pas ce qu'on veut au niveau des constructions. Donc, je ne suis pas sûre qu'on en soit encore arrivé là, mais je pense que chacun, à l'avenir, va devoir réfléchir. Quand on a des montées d'eau et qu'on n'anticipe rien parce qu'on avoir la possibilité chez soi, à n'importe quel moment, d'avoir une possibilité de remonter les meubles, d'adapter son mobilier peut-être. Je pense qu'il y a des choses à toute petite échelle, entre guillemets, où les uns et les autres, on pourrait déjà essayer de limiter le risque. Mais il va falloir que ça passera certainement aussi par des choses départementales et évidemment par l'État.
Et comment tu gères avec les clients ? Parce que bien sûr, je suppose que tout le monde n'est pas forcément satisfait de temps en temps quand ils ont un problème climatique ou une voiture qui est cassée.
Déjà, il faut avoir le sourire.
Ça, tu l'as.
Déjà, on essaye. Après, il faut être à l'écoute. J'aurais tendance à dire qu'un client satisfait passe en général par un client dans lequel il a une relation et il a revu ses contrats. Là où on a souvent le hic, entre guillemets, c'est que quand on n'a pas revu ses contrats depuis plusieurs années, on se retrouve dans une situation où le nombre de pièces a évolué, le risque a évolué, on n'a pas pensé à déclarer certaines choses dans ses contrats. Et c'est le jour où il y a un sinistre que la compagnie assurance va dire écoutez, vous n'avez pas fait la mise à jour de vos contrats et il peut y avoir des pénalités sur les indemnités. Donc, le petit conseil que je pourrais donner du jour, n'hésitez pas à aller voir votre assureur de proximité. Faites le point avec lui tous les ans, tous les deux ans, s'assurer que vous êtes vraiment en conformité, à jour et que vos garanties correspondent bien. Et en général, quand ce pavé-là est déjà respecté, il n'y a pas trop de difficultés au moment du sinistre.
Et pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'assurance ou dans ouvrir un cabinet d'assurance ? ou qui voudrait travailler déjà avec toi.
Alors, s'il veut venir bosser avec moi, je l'accueille avec grand plaisir, les
avec
bras ouverts.
Plus de sourire.
Ah oui, là, ça me ferait vraiment plaisir. Je pense que on est assureur, enfin, on est entrepreneur. Je pense qu'on disait tout à l'heure, on l'a en soi ou on l'a pas. Tout salarié ne pourra jamais être automatiquement un entrepreneur de
Bien
demain.
Sûr.
Ah oui.
Il y a des choses qui pourront évoluer, s'apprendre, mais je pense qu'il faut l'avoir un petit peu en soi. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Il faut qu'on parle de l'accompagnement, de la formation. C'est un métier, je pense, qui peut être ouvert à tout le monde, tant dans le salariat que dans la notion d'agent d'assurance. On a besoin d'agent d'assurance, il faut le savoir, hein, parce qu'on a, comme certains agents, comme certaines clientèles, bah, ça vieillit. Donc, on a aussi des agents d'assurance qui partent à la retraite. Donc, il y aura aussi des opportunités de développement là-dessus. Donc, faut pas hésiter, faut se lancer. Et je pense qu'on a un métier qui est hyper passionnant parce qu'on touche à tellement de choses au quotidien. Et celui qui est curieux, voilà, il peut vraiment se faire plaisir.
Ok. Eh ben, c'est parfait. Est-ce que Merci. Tu peux nous redonner tes contacts pour prendre une assurance chez toi? Donc, c'est AAZ et à Tournon-Saint-Martin.
Voilà, Areas Assurance. Le numéro de téléphone, c'est le 02 54. 39 20 35. Vous nous trouvez évidemment sur les pages jaunes, c'est pas une difficulté.
Ouais.
Sinon, Émilie, pour ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à m'appeler en direct. Et puis en tout cas, un grand merci pour l'invitation d'aujourd'hui. C'était vraiment une expérience très sympa.
Et ben,
merci
chouette.
À toi, Émilie. Et maintenant, on écoute ton choix musical.
Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. In the shadow, la 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 la.
L'écho prend le micro.
L'écho prend le micro.
Alors, de retour pour la Minute Info. Donc, merci Agathe hein, pour cette première expérience.
De rien, avec plaisir.
C'était très bien. Et donc, tu pourras m'accompagner
J'ai l'autorisation.
À chaque fois.
J'ai l'autorisation.
Ouais, c'est top.
Cool.
Alors, la Minute Info. On va passer sur les offres d'emploi à pourvoir. Alors, l'EHPAD de Saint-Gaultier cherche un ou une aide-soignante sur un poste en CDD de 3 mois, 35 heures par semaine. La Maison de l'eau à Bélabre cherche un ou une technicienne d'équipement de piscine en CDI 39 heures. On a également le foyer de vie au Blanc qui recherche un AES à mi-temps pour un CDI de 37h30 par semaine. Le magasin Lidl au Blanc cherche un équipier polyvalent pour un CDI de 30 heures par semaine. On a également sur le Blanc le salon de coiffure Le Mal Rasé qui cherche un coiffeur barbier pour un CDI de 35 heures par semaine. À Tournon-Saint-Martin, on a la pharmacie Multon qui cherche un pharmacien adjoint pour un CDI à temps complet. Et alors, je profite justement de ton passage, Émilie. Je crois que tu as une annonce également à faire passer.
Si des personnes veulent éventuellement avoir une expérience dans l'assurance, je suis prête à former. Donc, je recherche une collaboratrice sur l'agence d'Azel Ferron pour un travail soit à mi-temps, soit à temps plein, en fonction des demandes, avec un profil plutôt orienté administratif et commercial.
Eh bien super, le message est passé en espérant qu'il soit entendu. Au niveau de la formation maintenant, vous avez une formation d'infirmier-infirmière par la voie de formation professionnelle continue. L'inscription est valable jusqu'au 12 décembre, donc sur le site www.ch-châteauroux-leblanc.fr. Vous pouvez également les contacter au 02 54 28 28 61. Pour les entreprises à reprendre, on a l'hôtel-restaurant à Ruffec au tarif de 160 000 euros. Je rappelle, puisque ça fait un petit moment qu'il y a l'annonce, il y a deux salles pour une capacité de 50 couverts, une terrasse et un grand parking. Le restaurant est idéalement situé sur l'axe Châteauroux-Poitiers. Au Blanc, la boucherie-charcuterie traiteur en plein centre-ville au tarif de 90 000 euros. Pour cause de départ en retraite. C'est la dernière boucherie de la commune, clientèse nombreuse et fidèle, pour un chiffre d'affaires moyen sur les trois dernières années de 400 000 euros par an. Au Blanc toujours, on a un carrossier mécanicien implanté depuis plus de 60 ans pour un prix de 60 000 euros. Au Blanc encore, une mercerie, lingerie, layette située au cœur de la commune depuis 1943. Vous avez une surface de vente de 60 mètres carrés et 30 mètres carrés de réserve avec une clientèle fidèle depuis de nombreuses années pour un tarif de 25 000 euros. Et enfin, à Tournon-Saint-Martin, un commerce de tissus, mercerie prêt-à-porter situé le long de la route principale à l'entrée de Tournon. Les locaux sont spacieux, 300 mètres carrés avec un parking privé et une clientèle fidèle. Le commerce jouit d'une belle notoriété pour un tarif compétitif de 60 000 euros. Toutes ces annonces, vous pourrez les retrouver soit via la CMA et la CCI ou également sur le site transentreprise.com. Et il ne faut pas hésiter non plus à appeler au 02 54 08 80 09. On passe à l'agenda. Le 6 novembre, de 8h à 17h30, retrouvez le stade vers l'emploi uniforme à Argenton-sur-Creuse, 1 rue des Écoles. Il s'agit en fait d'un job dating proposé par France Travail. Le lundi 17 novembre aura lieu à 18h à la maison du village de Martizet, l'apéro de Larentelle. Ce moment convivial est dédié à l'accueil des nouveaux arrivants en Brenne. Comme toujours, le principe reste simple. Chacun apporte un petit quelque chose à grignoter et à boire pour partager un moment convivial et décontracté afin de faire connaissance, échanger et découvrir ou redécouvrir la Brenne autrement. L'événement est ouvert à tous, les nouveaux arrivants, les habitants, les acteurs du territoire. N'hésitez pas à en parler autour de vous, vous aurez plus d'informations au 02 54 28 20 28. Le 25 novembre, l'après-midi de 14h30 à 16h30, donc vous retrouverez un job dating immersion au Blanc. Vous pouvez contacter France Travail pour plus d'informations. Et enfin, nous avons le 28 novembre de 9h à 13h30 à Argenton-sur-Creuse, le salon Made in 36, destination industrie. Vous pouvez contacter Lauriane Bance pour plus d'informations. La prochaine réunion du club aura lieu le jeudi 27 novembre à Mézières-en-Brenne pour un apéritif à partir de 18h. Alors ça reste à confirmer, mais normalement on aura la visite de l'entreprise Braveur, donc au petit aménagement. Émilie me confirme que ce sera bien ça.
C'est bien ça.
Bon, bah c'est super. Alors maintenant, on passe à l'instant carnet vert, bonne pratique. Est-ce que, les filles, vous avez une bonne pratique à communiquer à tous les auditeurs ?
Alors moi, au niveau de l'assurance, c'est vrai que depuis quelques années, on est passé sur la digitalisation et les signatures électroniques. Donc j'ai tendance à dire on peut encore aller plus loin en allant sur le zéro papier. Donc depuis, pour le 1er janvier 2026, on n'en verra plus les appels de cotisation par papier. Ils seront automatiquement dans les espaces clients, justement pour limiter la production de papier et protéger nos forêts.
Ça fait suite un petit peu à la vignette verte qui a disparu au niveau
de la vignette verte également. Ah, ouais. Ouais. Ça fait partie des choses qui nous ont bien simplifié la vie.
Ouais, c'est vrai que c'est très bien tout ça. Agathe ?
Moi, plus je demande aux clients, surtout aux camping-cars, de trier leurs poubelles.
Ouais.
Donc voilà, c'est plus ça là-dessus. Mais après, sur le zéro papier, ça fait très longtemps qu'on fait ça sur la ferme. Donc, on essaye d'avoir toutes nos factures par mail.
Ouais.
Parce que le papier, c'est gentil, mais ça prend beaucoup de place.
C'est sûr. Eh bien, merci en tout cas, les filles. La prochaine émission, ce ne sera pas la semaine prochaine en direct, mais ce sera le 18, puisque mardi prochain, c'est férié. L'émission sera présentée par la CMA. Merci, Agathe et Émilie, pour votre participation.
Merci, merci à toi, Guillaume.
Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une belle semaine.
Bonne journée, au revoir.
À bientôt, au revoir.
C'était l'émission
L'écho prend le micro.
Le rendez-vous métier, emploi, insertion et formation sur Dynamo.